L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Je vais inviter le pasteur Jérémy Soudrus ce matin de venir et on va remercier Seigneur pour lui. Amen. Gloire à Dieu.
On va prier un moment et on va passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Parce que ta parole, Seigneur, nous relève, ta parole nous transforme. Et je te remercie parce que tu m'as donné une parole évidente et claire. Et merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. C'est toi qui honores Jésus-Christ. C'est toi qui nous fais découvrir Jésus. C'est toi qui nous montres où on en est réellement. Et où tu nous amènes, où tu veux nous amener. Merci pour cette parole, parce que cette parole, ce matin, va transformer les vies et va parler au cœur. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui va briser les jougs. Pour l'onction du Saint-Esprit qui va remettre en place, qui va reprendre, qui va exhorter, qui va aider, motiver. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, je ne peux rien faire. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que c'est toi qui parles et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Amen. On va aller dans Apocalypse, au chapitre 3. Et on va lire un passage qui, je crois, s'adresse réellement à l'Église francophone. Apocalypse 3 et au verset 14. C'est le Seigneur Jésus qui parlait, qui avait un message pour les églises. Donc ce message, il s'adressait réellement à des églises, donc à des chrétiens, à des gens qui étaient nés de nouveau. Et il va dire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Ce sont des paroles qui peuvent nous paraître dures, effectivement. Et la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est là pour nous reprendre parfois, mais pas seulement nous reprendre, mais nous amener beaucoup plus loin. Et actuellement, il y a des gens qui disent effectivement, je n'ai besoin de rien. Des chrétiens, en fait, quelqu'un a dit que nos attitudes parlent plus que nos mots. Notre attitude dans la vie de tous les jours parle plus que nos mots. Et il y a beaucoup de gens actuellement, et c'est le message que Dieu me donne presque dans chaque église où je vais. Il y a une fausse vie chrétienne. Il y a une fausse église. Ce n'est pas parce que vous priez, ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que vous jeûnez, que vous êtes actuellement dans l'intimité de Jésus-Christ. Et il y a ce type de chrétien qui pense qu'il n'a plus besoin de rien. Et beaucoup de gens, actuellement, pensent que finalement, ils ont réussi. Ils sont sauvés, ils sont baptisés du Saint-Esprit, tout va bien pour eux. Et en fait, tu ne pourras jamais obtenir quelque chose si tu ne réalises pas que tu as besoin de cette chose. Et tu ne pourras jamais t'approcher réellement de Jésus-Christ si tu ne réalises pas que tu es loin de lui. Et ce matin, on va voir au travers de différents passages Et on va pouvoir se dire où on en est avec Jésus-Christ. C'est évident que ces passages-là, ça nous parle de richesse spirituelle, de besoin spirituel. Donc Jésus parlait d'un besoin spirituel. Tu penses que tu n'as pas de besoin spirituel, mais tu as un grand besoin. Un grand besoin de moi. Et en fait, ces chrétiens, ils s'appuient sur le fait qu'ils sont sauvés. Ils s'appuient sur toutes leurs activités chrétiennes. Ils s'appuient sur leur prière pour le repas. Ils s'appuient sur leur prière le matin avant d'aller au travail. Ils s'appuient sur le fait d'aller à l'église, mais ils ne connaissent pas réellement Jésus-Christ. Quand on va arriver au ciel, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Est-ce que tu vas lui dire « Je suis sauvé » J'ai envie de dire « Est-ce que ça suffit d'être sauvé ?» C'est clair que le salut, c'est ce qui nous sauve. Mais lorsque tu vas aller auprès de Dieu, ce n'est pas ton salut qui va faire que Dieu te connaît. Mais c'est la connaissance que tu as de lui. Et les chrétiens se reposent beaucoup sur leur salut. Et ils ne se reposent pas sur l'intimité qu'ils ont avec Jésus-Christ. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses religieuses, mais Dieu nous appelle à avoir une intimité profonde, profonde avec lui. Une intimité extraordinaire. Des moments où tu passes avec lui dans sa présence, il te parle, tu lui parles, il te donne, il t'envoie ses sentiments, il te dit à quoi il pense, il te dit quels sont ses désirs, pourquoi il fait tout ça, quelles sont ses volontés, comment tu dois aller, comment tu dois vivre ta vie, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui. Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et comme je disais quand j'enseignais à l'école biblique hier, dans ce monde, quand les gens se réunissent, s'ils ont un pupitre, par exemple, à créer, la première réunion, ils vont dire, bon, on doit créer ce pupitre. Ils vont répartir les tâches à chacun. Une personne va dire, moi, je vais m'occuper de la communication pour le vendre dans différents magasins. Un autre dira, moi, je suis le dessinateur, je vais le dessiner. D'autres dira, moi, je vais voir combien ça va nous coûter. Et se disent, ok, on se reverra dans un mois. Ils se revoient, et là, ils ont déjà les plans. Ils savent combien ça va coûter. Ils savent où ils vont pouvoir le vendre. Ils ont des plans, ils corrigent ce qu'il y a à corriger, et ils se donnent un nouveau rendez-vous. Et un mois après, le pupitre est là. Et nous, les chrétiens, nous sommes les gens sur cette terre qui avons le plus de réunions. Et on peut prier 100 000 fois. On peut voir 100 réunions de prière et aucun fruit. Et les gens dans ce monde, ils ont des fruits sans prier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que Dieu est le problème? Non. C'est notre intimité avec le roi des rois. Notre intimité avec la personne du Saint-Esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu ne portes pas de fruits, c'est peut-être que tu t'es planté dans un endroit sec et désert. Et Dieu t'appelle au changement. Il va dire, tu ne sais pas que tu es malheureux. Donc en fait, tu as l'impression d'être heureux. Tu penses que tu es heureux. Mais la Bible dit, heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Le chrétien de Laodicée, puisque c'est un chrétien, il ne se confie pas en Dieu. En fait, il n'a plus vraiment confiance en lui. Il ne le dit pas, parce qu'il ne le dira jamais. Un chrétien n'ira jamais vous dire, en tout cas, en général, un chrétien dans une église ne vous dira pas qu'il n'a plus confiance en Dieu. Mais par contre, lorsqu'un problème arrivera dans sa vie, ses attitudes, ses réactions, ses actions vont clairement prouver qu'il n'a plus confiance en lui. Et le chrétien de Laodicée ne se confie pas en Dieu. Il met sa confiance en l'homme. Lorsqu'il a un problème, il appelle un ami. Lorsqu'il a un souci, il va voir telle et telle personne spécialisée dans ce domaine pour l'aider peut-être. Alors que Dieu nous a envoyé un enseignant extraordinaire et merveilleux à nos côtés. Donc, lorsque nous arriverons au ciel, Dieu va nous accepter parce qu'il nous connaît. La Bible dit, dans un passage, il va dire, c'est Jésus qui parlait, qu'il y a des gens qui vont arriver au ciel, ils vont dire, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait telle et telle chose? Et Jésus va leur dire, non, Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Et on peut se demander, mais qui sont ces gens? Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus. Et je n'irai pas trop loin si ce n'est de dire que ces gens ne connaissaient pas intimement Jésus-Christ. Ils pouvaient faire des choses pour lui, mais ils ne le connaissaient pas intimement. Dieu ne veut pas faire de nous des robots. Dieu ne veut pas faire de nous des gens qui sont dans un club. Mais Dieu veut connaître intimement son disciple et profondément son disciple. Le passage, c'était dans Matthieu 7, 21. Au verset 23, « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bon, il y a aussi des gens, parfois, vous savez, ils vous disent, « Moi, je connais bien la route. » Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que finalement, au lieu d'aller comme ça, ils vont à droite, à gauche, partout. J'ai un ami comme ça en France. Sa femme, pour aller à son travail, elle mettait 45 minutes. Elle a fait ça pendant un an peut-être. Et après, il a réalisé avec son GPS qu'il y avait une autre route. Il ne mettait plus que 15 minutes. Et c'est de la vie de beaucoup de chrétiens. Ils vont ici et là. Et ils ne sont pas sur le chemin étroit que Jésus a voulu pour eux. Donc des gens qui se pensent riches. Des gens qui pensent être heureux. Et Jésus leur dit, tu penses être heureux alors que tu es malheureux. Tu es malheureux. Donc, dans Ésaïe, on va pouvoir lire dans Ésaïe au chapitre 32, comment Dieu définit celui qui est heureux. Qui est la personne qui est heureux réellement selon Dieu? Le chrétien de Laodicée, il pense être heureux, mais Dieu lui dit qu'il est malheureux. Ésaïe 32, verset 20. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui détachez les pattes du bœuf et de l'âne. Ça, c'est être heureux selon Dieu. Il y a un autre passage qui dit dans Matthieu 24 et au verset 45, je vais lire pour vous. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, être heureux selon Dieu, c'est semer. Semer le long des eaux, semer sur le long du chemin. Et c'est détacher les liens. Le chrétien de Laodicée, il ne sème pas la parole de Dieu, ce n'est pas un semeur. Ce n'est pas quelqu'un qui sème. Il amasse tout pour lui-même. Il va à l'église pour lui-même. Il veut compris pour lui, pour lui-même. Il lit la Bible pour lui-même. Il prie à Dieu pour lui-même, toujours pour satisfaire ses propres besoins. Ça, c'est le chrétien de Laodicée. Il ne témoigne pas. Il n'annonce pas l'évangile. Peut-être qu'il le faisait, mais il ne le fait plus, actuellement. À un moment, Jésus va se trouver sur ce chemin, justement. Et là, il y avait deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus se met. Jésus semait la parole. Partout où il allait, sur tous les chemins, Jésus-Christ semait la parole. Et l'homme qui est heureux, le vrai chrétien, celui qui plaît à Dieu, le vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui sème la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui la reçoit seulement, mais c'est quelqu'un qui va la semer, en toutes circonstances. Quelqu'un qui va détacher les liens du bœuf et de l'âne. Mais le chrétien de Laodicée, il est semblable à cet homme, ce pharisien. Il y avait quelqu'un de blessé sur le côté de la route, sur le côté du chemin, et lui, il passe sa route. Le chrétien de Laodicée, il ne s'aperçoit plus finalement des besoins des autres. Il est complètement retourné vers lui-même. Mes besoins, mon travail, ma femme, ma famille, ma maison, mon travail, complètement tourné vers lui-même. Tourné sur lui. Moi, mon, mais. Tout est pour moi. Mais le dimanche matin, ce chrétien, il va à l'église. Et il dit, Seigneur, je te donne tout. Prends toute ma vie. Et il fait des grandes confessions. Mais comme dit la parole de Dieu, on peut mentir à un homme, mais à Dieu, on ne peut pas mentir. C'est impossible de mentir à Dieu. Et c'est la chose la plus terrible, de dire des choses à Dieu que nous ne croyons pas réellement, que nous ne vivons pas réellement. Il y a une chose avec la confession de la parole de Dieu, de déclarer qui nous sommes. Mais c'est une autre chose de dire qu'on est proche de Dieu, alors qu'on ne l'est pas, alors qu'on est loin de lui. Il y avait un autre moment, Jésus il va délivrer une femme qui était sous le joug de Satan depuis 18 ans. Et bien sûr, les pharisiens étaient choqués. Jésus détachait les liens des gens. C'était son désir. C'était ses motivations, c'était ce qui l'animait. Chaque jour, il était animé, complètement rempli d'un désir de détacher les liens des gens. Votre désir, ça doit être animé des mêmes sentiments de Jésus-Christ. Votre désir sur cette terre, on ne construit pas un royaume physique. On construit un royaume éternel. Nous avons été créés de poussière. Cette poussière, elle retournera à la poussière. Mais Dieu a fait habiter en nous un esprit extraordinaire, merveilleux. Qui nous sommes réellement, nous sommes des gens spirituels, nous sommes des êtres spirituels. Et nous construisons un royaume spirituel. Et les gens qui nous entourent sont aussi des êtres spirituels qui souffrent. Mais le chrétien de Laodicée, il va au travail, on lui raconte des choses, il voit des gens qui souffrent. Il voit dans les magasins une personne qui est là. Il s'en fiche complètement. Il n'est pas attiré par ça. Lui, ce qu'il veut, c'est prospérer, c'est être béni, c'est aller plus loin, c'est gravir les échelons, devenir un manager, un businessman. Mais il a complètement oublié l'intimité avec Dieu. Dans Matthieu 5, au verset 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Rappelez-vous, ces gens se pensaient heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Comment on est pauvre en esprit? C'est quand on s'aperçoit, quand on réalise où on en est réellement avec Jésus-Christ. Quand on a cet esprit qui est brisé, qui est contrit. Quand on a cet esprit d'humilité. Celui qui est orgueilleux, il ne pourra jamais aller plus loin. Mais celui qui s'humilie devant Dieu, celui qui reconnaît son état, Dieu pourra l'amener beaucoup plus loin. Si tu penses que actuellement, tu es au top, si tu penses que ta relation avec Dieu, ça te suffit. Si tu te satisfais avec ça, tu n'iras jamais plus loin. On ne pourra jamais voir cette église remplie si on reste comme on est. Sérieusement. On ne pourra jamais voir de réveil. Jamais. Il y a plein d'églises et elles ont la même Bible que nous. Et elles ne voient jamais rien. Et on sait que ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas de la faute de la source non plus. C'est de la faute de ses serviteurs. Jésus va leur dire aussi dans Apocalypse, « Tu ne sais pas que tu es misérable. » Donc, le chrétien de Laodicée, il pense qu'il est en bonne condition. Parce qu'il a la parole. La parole de Dieu lui donne des promesses. Donc, il pense que tout va bien pour lui. Il est en bonne condition. Dans Jean 4, l'évangile de Jean, chapitre 4, et au verset 5, Jésus donc va quitter la Judée et repartir pour la Galilée. Et là, il va traverser la Samarie. Et au verset 6, il est dit, « Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, Jésus va lui proposer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. D'abord, il va lui demander de lui donner à boire. Et en fait, il voulait tester sa propre soif. Et cette femme, elle va lui parler théologie. Elle va lui parler du fait que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, avec les étrangers, avec les incirconcis. Et il y a ce type de chrétien qui s'appuie sur la théologie. Ce sont de grands théologiens. Ils connaissent plein de choses sur la Bible. Mais ils ne connaissent pas intimement Dieu. Et donc Jésus va l'amener plus loin. Et il va lui montrer sa condition, où elle en est réellement. Au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus est en train de lui dire, mais si tu bois cette eau que tu as l'habitude de boire, tu ne pourras pas me rencontrer. Tu as besoin d'une nouvelle eau. Tu as besoin de boire quelque chose de nouveau. Tu as besoin de quitter le chemin, la condition dans laquelle tu es. Et le chrétien de Laodicée, il est installé dans des habitudes. Il sait que le dimanche, il va à l'église. Il sait que tel jour, il va à la réunion de prière. Installé dans des habitudes. Avant le repas, il prie, il est très spirituel, mais il ne voit rien dans sa vie. Peut-être il s'est dit, on va faire un culte de famille le samedi matin. Il fait son culte de famille, mais il ne connaît pas Jésus-Christ. Il y a une expression qui dit que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et il y a des chrétiens qui connaissent moins Dieu, j'irais presque, entre guillemets, que certains inconvertis qui lisent la Bible constamment. Donc tu peux avoir chez toi plein de livres chrétiens, tu peux avoir 10 Bibles différentes, tu peux aller à l'église, tu peux aller dans des réunions, etc. et ne pas connaître intimement Jésus-Christ. C'est une chose tout à fait différente d'avoir des livres qui parlent de Dieu et de connaître celui dont les livres parlent. Donc Jésus lui dit, si tu connaissais ce don, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette Samaritaine, elle était attachée au passé religieux, à ses acquis. Elle était installée dans sa religion. Oh, je suis au bon endroit, j'ai ma Bible, je vais à l'église, tout va bien. Elle pensait que cette eau, et c'était un endroit entre guillemets religieux, ça avait un passé religieux, que cette eau allait lui suffire. Jésus lui dit, non, il y a une autre eau. Il y a une autre eau que celle que tu bois actuellement. Il y a une autre religion que celle que tu vis actuellement. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec moi. Tu es en train de faire des choses religieuses, mais tu es en train de complètement passer à côté de moi. Tu es en train de prier, et je suis là à côté de toi, et tu ne me vois même pas. Tu es en train de demander même des choses à Dieu, mais tu les dis juste avec tes lèvres. Ton cœur est loin de moi. Et Jésus est là à côté de nous. Le Saint-Esprit est là. Et il attend. Il attend. Il attend. Il attend que tu puisses lui parler. Dans Actes 10 et au verset 13, il y a un moment, Pierre, il y avait eu la Pentecôte. Ils avaient vécu des choses et ils avaient passé certaines années, un certain nombre d'années, ils étaient là dans l'église, ils avaient commencé certaines choses, à installer des choses, etc. Et à un moment, Jésus va l'amener plus loin. Jésus va l'amener à sortir d'une habitude. Une habitude, c'est facile à créer. Je crois, je ne sais plus, c'est au bout de 3 semaines ou 1 mois, on peut créer une habitude en la faisant tous les jours. Et il va avoir une vision. Et dans cette vision, Dieu va lui dire, lève-toi, tue et mange. Et Pierre va dire, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé qui soit impur. Jésus a cassé la tradition. Il a cassé les habitudes religieuses. Et comme le disait le prédicateur il y a 2 semaines, il faut briser les cycles. Il faut briser les traditions. Il faut briser ce qui a été établi par l'homme. Dans Jean, au chapitre 5, Et au verset 2, il y avait un homme. Il est dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. » Ici, vous avez certaines Bibles où il vous manque, entre guillemets, un verset. Il est dit de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. J'ai une référence qui dit que ce message, cette partie de verset où il est dit qu'il y a un ange qui est là et apparemment souverainement il bouscule l'eau et la personne qui va dedans est guérie, une référence dit que ce passage-là, il n'existe pas dans les meilleures versions qu'on a eues. C'est-à-dire qu'on peut se demander si réellement, est-ce qu'il y avait un ange qui venait là, qui bougeait l'eau, et qui faisait que le premier, finalement, qui arrivait à aller dedans était guéri. Ça vous rappelle quelque chose? Vous connaissez Lourdes? Mais c'est un autre sujet. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, au verset 5. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Cet homme, il s'était conditionné. Il s'était habitué de l'état dans lequel il était. De toute façon, il se disait, et c'est clair, sa confession le montre réellement, clairement, « Il n'y a personne. Il n'y a personne pour me mettre dans la piscine. » Donc, il était là en sachant pertinemment et profondément et avec conviction qu'il ne serait pas guéri. Il s'était habitué. C'était un endroit très religieux, très mystique. Il y avait toutes sortes de gens qui venaient là. Il n'y avait pas seulement des malades, il y avait des curieux. Il y avait des gens qui passaient là, dans la région, et qui allaient voir ça. Ils voulaient passer par là, dans cet endroit religieux et mystique. Et certainement qu'il avait trouvé des amis ici. Il avait trouvé un club social. Il était venu pour trouver sa guérison au départ, mais il avait terminé par discuter avec des gens et voir les autres être guéris. Et peut-être que pendant 38 ans, il était là au même endroit, convaincu qu'il n'allait pas être guéri, voyant les autres être guéris et parlant avec des gens autour de lui, discutant de la pluie et du beau temps. Et il y a tellement de chrétiens comme ça. Ils sont là, avec les autres. On leur montre la source qui guérit. Ils regardent les autres être bénis. Ils regardent les autres vivre certaines choses avec Dieu. Et eux, ils sont là, en train de parler, de discuter avec des gens. Apparemment, ils font partie de l'Église. Ils se sont conditionnés complètement dans leur état. Peut-être que cette personne, elle était gentille. C'était peut-être une bonne personne, hein, même si effectivement, il avait péché dans le passé. Et peut-être qu'il s'était repenti, mais il regardait à l'eau agitée dans la piscine. Il regardait à l'eau agitée dans la piscine. Il regardait à ce qui avait pu être fait. En tout cas, il était hors du coup. Comme cette femme samaritaine, elle regardait au puits. Elle regardait à cette source. Elle regardait au passé religieux de ce puits. Elle ne vivait rien elle-même. Et de la même manière que Jésus va montrer à cette Samaritaine qu'il a pour elle une autre source, une source intarissable, une source qui ne s'arrêtera jamais. De la même manière, Jésus va montrer à cet homme qu'il y a une autre source. Il y a quelque chose d'autre que cette piscine mystique, où on est là, apparemment, c'est celui qui le mérite le plus, entre guillemets, c'est celui qui court le plus vite. Il y a une autre source. Il va lui demander est-ce qu'il veut retrouver la santé. Au verset 7, le malade lui répondit, « Donc Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Jésus est venu briser ce qu'il était en train de vivre. Jésus ne regardait pas à la piscine. Mais Jésus a fait quelque chose. C'est la grande différence. Jésus a fait quelque chose. Jésus est venu prendre un homme qui était dans une tradition, qui était dans des habitudes depuis 38 ans, qui s'était habitué à sa condition. Et en un instant, il n'a pas dialogué longtemps avec lui. Il lui a dit simplement, lève-toi. Lève-toi, sors de là. Sors de là où tu te trouves. J'ai quelque chose de mieux pour toi. Il y a une autre vie. Il y a une autre source. Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il fait hier, il le fait aujourd'hui. Seulement s'il trouve quelqu'un qui croit en lui. Donc peut-être que autour de ce puits, vous pouvez trouver des gens qui vendaient des livres chrétiens. Vous pouvez trouver des gens qui vendaient des autocollants Ictus pour mettre sur les voitures. Vous pouvez trouver des CD de gospel. Trouver toutes sortes de choses religieuses. Et on s'aperçoit finalement que dans l'Église actuelle, on peut vous parler de comment avoir la foi. On peut vous parler de comment prospérer en Christ. On peut vous dire les 10 clés pour obtenir une vie victorieuse. On peut vous donner tout un tas de choses. Mais on a oublié une chose. C'est celui qui les donne. L'intimité avec Christ. Et il y a des gens, parfois, ils demandent la prière, et c'est une bonne chose. Ils ont une certaine situation dans leur vie. Et ils vont aller chercher dans la parole de Dieu cette chose. Ils vont essayer de fonctionner avec Dieu comme si c'était un robot. Ils vont dire, ok, la Bible dit, il faut avoir la foi. La foi vient de la parole de Dieu, etc. Je prends tel verset, je le déclare. Mais ils oublient complètement que c'est une intimité. Dieu, c'est clair, il a établi des lois, des principes. Mais on ne parle pas à Dieu comme on parle à un robot. Vous savez, il y a des choses, des appareils, vous pouvez dire lumière, il y a la lumière qui s'allume. Ils obéissent au son de la voix. Mais Dieu n'est pas comme ça, Dieu est une personne. Une personne qui veut se faire connaître. Dieu veut te connaître. Et Dieu veut que tu puisses le connaître. Dans Marc, au chapitre 7, et au verset 1, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavés les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Les pharisiens, ils faisaient plein de trucs religieux. Et pour l'époque, c'est clair, les gens, ils les trouvaient religieux. Certainement que les gens qui les regardaient, ils se disaient, mais ces gens, ils sont proches de Dieu. Plein de trucs religieux, ils avaient fait leur petit programme. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. On a été visiter une abbaye pas loin là. Et il y avait un tableau qui disait ce que la personne doit faire quand elle vient dans cette abbaye. Alors il y a le lever, 5h du matin, lecture de tel livre dans la parole. À 6h, le petit déjeuner. À 7h, temps personnel. À 8h, etc., 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 jusqu'à la fin de sa journée. Finalement, ils accomplissent rien du tout. Ils accomplissent rien. Et ils ne connaissent même pas Dieu. Intimement, profondément. Les pharisiens, ils se pensaient vraiment être au top niveau. Qu'est-ce qui différencie un pharisien d'un véritable disciple de Jésus-Christ? On peut se dire tout de suite, moi je ne suis pas pharisien. Mais le pharisien, il priait. À un moment, Jésus va dire que le pharisien, il était là en train de prier. Et l'homme qui était à côté de lui à genoux. Donc le pharisien priait. Le pharisien, il donnait sa dîme. À un moment, Jésus va dire que les pharisiens donnent leur dîme. Leur dîme de tout. Le pharisien, il venait entre guillemets à l'église. Ils étaient tout le temps là dans le lieu religieux. Synagogue. Le pharisien, il pouvait faire des offrandes pour certains besoins qu'il rencontrait. Le pharisien, il lisait la parole de Dieu. Il la connaissait par cœur. Il méditait réellement dessus. Qu'est-ce qui différenciait les pharisiens? Qu'est-ce qui différencie les pharisiens de nous? Qu'est-ce qui change réellement? C'est clair, on est sauvé, on a accepté Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce que la vie chrétienne se résume à ça? Dieu veut réellement qu'on sorte de nos habitudes. Dieu veut que tu fasses quelque chose de nouveau dans ta relation avec lui. Tellement de gens, tellement de chrétiens ressemblent aux pharisiens. Jésus était surpris. À un moment, à Nicodème, il va dire, « Mais toi, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. » Jésus était vraiment surpris de voir des gens qui se pensaient religieux et qui ne le connaissaient pas. Au bout d'un moment, je crois que c'est Philippe qui va dire à Jésus, « Mais montre-nous le Père et nous croirons en lui. » Et Jésus va lui dire, « Mais ça fait tant de temps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. » Tellement de gens prient. Ils prient. Pour prier, ils prient. Ils prient pour prendre le bus. Ils prient pour telle et telle chose. Ils prient pour savoir comment s'habiller. Ils prient pour comment bien manger. Ils prient pour être bénis. Mais ils oublient. Ils oublient réellement celui qu'ils prient. Dans un couple, tu peux avoir un mari. Donc il est marié. Il peut parler avec sa femme. Il peut dormir avec sa femme, il peut manger avec sa femme, il peut sortir avec sa femme, il peut même demander des choses à sa femme et ne pas avoir une intimité avec elle. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens qui vivent avec Dieu. Dieu habite même en eux, mais ils ne connaissent pas intimement la personne de Jésus. Qu'est-ce que tu fais de ta semaine? Qu'est-ce que tu fais de ta semaine? Est-ce que le matin, tu te dis, oh, j'ai hâte à ce soir, on va regarder un film, on va faire ceci et cela? Ou est-ce que tu as un cœur qui désire connaître Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur, est-ce que ton désir, c'est, tu dis, je vais me mettre à part. Je vais me mettre à part, je vais chercher celui qui se laisse trouver. Jésus va leur dire à cette église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu te crois riche. Dans Luc 18:18, il y a un homme qui vient voir Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol. » Ne dis pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. Gloire à Dieu, je suis un bon chrétien. Je mens pas, je vole pas, je trompe pas ma femme, je vole pas dans les magasins. Je suis au top. Et Jésus va lui dire une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens. Et suis-moi. Viens et suis-moi. Donc, cette personne pensait être dans une condition qui était bonne. Et Jésus va lui montrer que réellement, en fait, il est pauvre. Cette personne se pensait riche, et dans le naturel, elle l'était. Mais finalement, elle était pauvre selon Dieu. Elle avait une pauvreté spirituelle. Et Jésus va lui montrer que toutes ces choses qu'il fait, qui sont bien, qui sont bonnes, puisque c'est bien de faire toutes les choses dont je vous ai parlé, si on le fait avec son cœur. Toutes ces choses qu'il faisait, Jésus est venu lui montrer qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait quelque chose de plus. Il était habitué à une façon de faire, et Jésus va lui dire de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et cette personne, il pensait que ça allait être une perte pour lui. Il ne comprenait pas qu'il allait gagner quelque chose dans l'histoire. Il ne comprenait pas ça. Dans Proverbes 11:28, « Il est dit, celui qui se confie dans ses richesses, il tombera. Mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Notre justice, c'est le fait de pouvoir s'approcher de Dieu sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Ça, c'est notre justice en Dieu. Et celui qui se croit riche, il tombera. Celui qui pense que sa vie chrétienne en ce moment, c'est bon, sa vie de prière, il s'en contente, il ne le dit pas, mais il s'en contente, c'est clair. Il ne cherche pas Dieu. Il le montre clairement. Il fait tout un tas de choses dans sa semaine. Il dit qu'il est très occupé. On a toujours du temps pour chercher Dieu. Et celui qui se base sur ses richesses, sur ses acquis, sur ces petites choses religieuses, il n'est pas juste. Il ne pourra plus s'approcher de Dieu au bout d'un moment. Et c'est ce que Jésus a dit à cet homme. Tu dois tout vendre. Et ensuite, tu me suivras. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et alors qu'il me suive. Mais d'abord, il doit renoncer à lui-même. Dans Proverbe 22, au verset 1, il est dit, la renommée est préférable à de grandes richesses. Ça, c'est la richesse selon Dieu. La renommée, c'est quelque chose qui te rend riche. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Mais qu'est-ce qui donne la renommée? La renommée vient avec des choses que tu as faites. Donc la vraie richesse, selon Dieu, ce sont des choses que tu as faites qui t'ont amené à avoir une bonne renommée. Ce sont des fruits. Ce qui te donnera une bonne renommée, ce sera tes fruits. Si tu as une mauvaise renommée, c'est certainement parce que tu as de mauvais fruits ou parce que tu n'as aucun fruit. Même si effectivement on peut porter des fruits en ayant des attaques, etc. Mais dans le milieu dans lequel tu te trouves, si tu as une mauvaise renommée, si tu n'as pas de renommée, c'est parce que tu ne portes pas de fruits. Au moment où tu commenceras à porter des fruits, à ce moment-là, tu commenceras à avoir une renommée. Et on ne cherche pas la renommée, c'est clair, mais selon la parole, la renommée est plus puissante, est préférable à de grandes richesses. David, le roi David était quelqu'un d'extrêmement riche. Il était super riche. Mais à un moment, il va déclarer dans Psaume 86, 22, Psaume 86, 22. Il va déclarer qu'il est pauvre. Je n'ai pas la bonne référence. En tout cas, il dit, Seigneur, je suis tellement pauvre devant toi. Je suis tellement misérable devant toi. Donc David était conscient que malgré toutes ses richesses, malgré tout ce qu'il avait, ce que Dieu lui avait donné, Dieu l'avait béni vraiment. Dieu lui avait donné des biens considérables. Parce que quand tu t'approches de Dieu au départ, quand tu l'acceptes dans ta vie, Dieu va s'occuper de tes choses. Dieu va te bénir réellement. Mais il était conscient que ce n'était pas ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'était de connaître celui qui avait donné toutes ces choses. Dans Jérémie, au chapitre 9 et au verset 22, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » De me connaître. Tu peux te glorifier à partir du moment où tu connais Christ. Et d'ailleurs, l'apôtre dira qu'il se glorifie de connaître Jésus-Christ. Il se glorifie de porter des fruits pour Jésus-Christ. Donc, si tu es sage, te glorifie pas de ta sagesse. Si tu es fort, te glorifie pas de ta force. Si tu connais plein de versets bibliques par cœur, te glorifie pas de ça. Si ça fait 15 ans que tu es chrétien, te glorifie pas de ça. Si tu vas dans telle église qui est excellente, ne te glorifie pas de ça. Glorifie-toi de la connaissance que tu as de Jésus-Christ. On peut parler avec plein de chrétiens. Constamment, tout le temps, on est entouré de chrétiens. Mais si peu, tellement, peu souvent, on entend quelqu'un dire « J'aime Jésus. J'ai passé un temps avec lui, c'était extraordinaire, c'était merveilleux. » On n'entend plus ça, quasiment. Des gens qui vivent intimement avec lui, des gens qui sont intéressés par ce que Jésus veut. Des gens qui sont intéressés juste par lui. Pas par ce qu'il peut donner, mais par lui. Mais aujourd'hui, les gens, ils viennent à l'église, beaucoup de gens, ils viennent à l'église parce qu'ils pensent que bon, c'est la tombola. Il y a des choses qui sont données gratuitement, c'est gratuit. Oui, prenez, Jésus a dit. En tout cas, la Bible a dit, prenez, c'est gratuit, ok? Mais tu dois connaître d'abord celui qui donne ces choses gratuitement. Et Dieu veut qu'on le connaisse. Jésus va dire à cette église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es aveugle. Donc le chrétien de Laodicée, il pense qu'il voit. Il pense qu'il voit dans ce monde. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Le chrétien de Laodicée, il veut croire à partir du moment où il voit. Donc, il veut bien parler à Jésus, mais si Jésus se manifeste, il veut bien prier pour quelque chose, si seulement il sent Jésus. Mais la Bible nous montre que le Saint-Esprit, c'est un esprit, et on ne doit pas marcher par la vue, mais on doit marcher par la foi. Pour Jésus, celui qui lui plaît, ce qui lui plaît, c'est la foi. C'est croire sans avoir vu. Mais pour certains, Dieu, il est comme un tableau. À un moment, ils ont un vide dans leur vie, ils ont un vide quelque part, et ils s'achètent ce tableau, ils le placent là. Et au bout d'un moment, ils ne savent même plus que ce tableau est là. Tu peux leur dire, mais il y a un tableau qui se trouve à tel endroit dans ta maison, c'est quoi dessus? Il dit, je sais pas. Pourtant, ça fait 10 ans qu'il l'a. Il a complètement oublié parce qu'il ne regarde plus. Et pour certains, Dieu, ils ont installé Dieu quelque part dans leur vie. Il est tout le temps là, dans leur maison. Mais ils ne lui parlent plus. Ils ne le connaissent pas intimement. Dans Hébreux 6, il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu va donner une récompense à celui qui le cherche. Il donne vraiment une récompense. Il y a une récompense, il y a une faveur, il y a des avantages. Il y a une bénédiction quelque part quand on s'approche de Dieu. Mais savez-vous comment on s'approche de Dieu? On s'approche de Dieu quand on réalise qu'on est loin de lui. Si tu es satisfait de ta condition, et je suis en train d'arracher des choses ici, de détruire et d'abattre toute pensée religieuse, toute chose qui pourrait vous faire penser que vous êtes au bout, que vous êtes arrivé là quelque part, pour construire quelque chose en vous, une soif de Dieu, une soif de le connaître. La Bible dit, arrête d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Arrête. Arrête-toi un moment. La Bible dira que le juste, c'est pas celui qui va s'arrêter sur un banc, sur le banc des moqueurs, mais c'est celui qui va porter son fruit en sa saison. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à tes habitudes, mais Dieu veut que tu ailles quelque part d'autre. Tu as peut-être essayé des choses, mais ça n'a pas fonctionné, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau avec Jésus-Christ. Donc on peut être marié avec quelqu'un et avoir des relations avec cette personne. On lui parle, effectivement, et on peut prier. Prier, c'est parler à Dieu. Donc tu peux avoir tous les jours une personne qui habite avec toi, avec laquelle tu t'es marié, et pas être intéressé à elle. Tu peux lui parler, tu peux lui demander le sel, le poivre, tu peux lui demander ce qu'elle veut regarder comme film ce soir. Donc tu parles avec elle, tu discutes réellement. Et tu peux dire à ton collègue, oui, je connais ma femme, bien sûr. Il y a des gens comme ça, ils appellent certaines personnes importantes ou des directeurs. Et quand ils arrivent sur la secrétaire, ils disent, mais si, je le connais. Passez-le-moi. Le directeur, quand on lui dit son nom, mais non, je ne le connais pas du tout. Et de la même façon, il y a ces gens qui se sont approchés. Ils ont dit, j'ai fait tout ça en ton nom. J'étais un grand théologien, regarde, j'ai chassé des démons. Je voyais des choses dans ma vie. Et Jésus leur dit, je ne te connais pas. Et cette connaissance, c'est une connaissance intime. Ce n'est pas une connaissance, je viens à l'église, j'apprends des choses sur Dieu avec ma tête. C'est ce que j'apprends sur Dieu, ce que j'apprends au travers de sa parole, je le vis. Je vis Dieu. Je vis quelque chose avec Dieu. Je ne suis pas là en train de voir des choses sur Dieu et d'apprendre des choses intellectuellement, mais je vis Dieu. Et il y a beaucoup qui vivent plus Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils vivent plus Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as rencontré Jésus? C'est quand la dernière fois que tu étais dans sa présence d'une telle mesure, tu as senti sa puissance, son amour venir sur toi d'une façon extraordinaire? C'était quand la dernière fois? Et si ça s'est passé hier, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui? Il y a des fois, on peut vivre des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Et le lendemain, tu te réveilles, mais tu as l'impression que il n'y a plus rien. Tu es sec, complètement. Parce qu'on a une chair. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, Dieu veut se manifester à l'homme. Tous les jours, Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que tu le connaisses. Et Dieu veut te connaître. Bien sûr, il connaît tout de toi, mais il veut te connaître intimement. Profondément, il veut te connaître. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, un jour, David a dit, mais qu'est-ce que l'homme ? Ou Salomon, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'homme ? Son enfant. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire nous sommes de sa race. C'est comme si un enfant disait, mais qu'est-ce que je suis pour que mon père s'intéresse à moi ? Mais tu es de sa race, tu es son enfant. Il t'a créé, tu es sorti de lui. Et nous sommes sortis du cœur de Dieu, nous sommes à son image. Réellement, nous sommes ses enfants. Donc Dieu, chaque jour, il est là auprès de toi. Il te regarde, il nous prend comme des enfants. Jésus a dit, celui qui s'approche du royaume de Dieu, le vrai chrétien, c'est celui qui est comme un enfant. Jésus nous considère comme des enfants, même si nous pouvons être, entre guillemets, adultes spirituellement. Mais il veut qu'on soit comme des enfants. Et Jésus, Dieu, nous regarde chaque jour. Pendant que tu dors, il te regarde. Il veille sur toi. Il veille sur tes pas. Quand tu te réveilles, tu n'as même pas dit un mot. Que déjà il te dit « Je t'aime, je veux faire quelque chose pour toi, je veux te diriger, je veux te parler, je veux te dire quelque chose. » Mais toi, tu te lèves, tu es occupé, tu t'es réveillé en retard, ou à l'heure, tu n'as pris pas assez de temps, tu as juste le temps de manger, de t'habiller, d'aller au travail. Et là, tu es au travail, tu vis ta journée, peut-être tu peux penser à Dieu, tu vois qu'il y a un besoin, tu pries. Et le Seigneur, il s'attend, oh, ok, il commence à me parler, et paf, tu dis amen, après avoir prié pour ton besoin. Et le Saint-Esprit est là, il attend. Il attend désespérément. Désespérément. La Bible dit que les pensées de Dieu, pour toi, sont plus nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Dieu a des pensées énormes, nombreuses, pour toi. Quand tu es à ton travail et que tu ne t'occupes même pas de lui, Dieu lui pense à toi. Et Dieu veut te toucher. Et Dieu veut te connaître. Tu finis ta journée, tu es fatigué, tu arrives chez toi, il y a peut-être tes enfants, il y a peut-être ta femme, il y a peut-être ton mari. Tu es épuisé, tu t'assois tranquillement, tu mets la télé, tu regardes les infos, tu lis ton journal, tu lis ton courrier. Tu parles à ta femme, tu parles à tes enfants, tu t'en occupes. Et le Saint-Esprit est encore là. Et il est désespéré pour toi. Il se dit, mais est-ce que ce soir il va passer un temps avec moi ? Est-ce qu'il va me chercher ? Et là, tu fais manger tes enfants, tu manges, tu regardes un film, et tu dis, oh Seigneur, merci pour cette belle journée. Et tu t'endors. Et le dimanche, tu arrives à l'église, tu te réveilles, oh bon, on va aller à l'église, il faut prier un peu plus. Tu dis, Seigneur, merci, l'église, ça va être bien. Je vais être béni, merci pour ta parole. Et tu arrives à l'église, et là, ah, je te donne tout, Seigneur. Prends toute ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, Seigneur, alléluia, avec toi, je ferai des exploits. Et dans ta vie, tu ne vis rien, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il ne te parle pas. Tu ne lui parles pas. Réellement. On peut parler à tout un tas de gens sans les connaître. T'appelles n'importe quel numéro au hasard, tu parles à la personne et ne te connaît pas, ne sait pas qui t'es. De la même façon, tu peux parler à Dieu tous les jours sans que tu le connaisses réellement. La Bible dit, celui qui s'approchera de moi, je vais m'approcher de lui. Et s'approcher de Dieu, du fait qu'on est dans cette chair actuellement, ça a un coût. Les gens, ils pensent qu'ils ont vécu 10 ans avec des habitudes mauvaises, 10 ans de religiosité, 10 ans de choses qui n'ont pas porté de fruits, et ils se consacrent 10 minutes et tout va changer. Pas forcément, non. Ça va demander que cette chair, on la laisse de côté. De côté. Et parfois, ça va demander du temps. Un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, pour que ces habitudes religieuses et pourries, qui ne t'amènent rien du tout, puissent disparaître complètement. Ce n'est pas Dieu qui va te donner la soif pour lui. Ce n'est pas Dieu qui te donnera la faim pour lui. Jésus a dit, si tu as soif, bois-moi. Si tu as faim, mange-moi. Jésus a dit, celui qui me connaît, il doit manger mon corps, il doit manger ma chair, il doit boire de mon sang. Ça nous parle d'intimité. Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, mais il a dit, je frappe. Celui qui ouvre la porte, et il parle à une église. Il parle à une église, il ne parle pas des non-croyants. Celui qui ouvre la porte, je le ferai, j'entrerai chez lui et je souperai, je mangerai avec lui. Et on sait tous que le repas, c'est un moment particulier. C'est dans les repas que les plus grandes décisions de ce monde se sont prises quasiment, autour d'une table. Intimement, Dieu veut te connaître intimement. À un moment, Dieu va crier dans le jardin. « Adam, où es-tu ? Où es-tu ? » Il cherchait Adam. À un moment, dans la Bible, il va appeler Samuel. « Samuel, Samuel !» À un autre moment, il va appeler Abraham. « Abraham !» Dieu t'appelle par ton prénom. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Mais Dieu veut savoir tes pensées, tes sentiments. Dieu veut savoir ce que tu es, qui tu es. Dieu veut te découvrir intimement, personnellement. Dieu n'est pas intéressé par la religion. Dieu n'est pas intéressé à ce que tu lises la Bible, juste. Dieu est intéressé à ce que tu le connaisses, lui, réellement. Donc Dieu nous cherche. Dans 2 Corinthiens 13, 14, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Une traduction qui dit que l'échange de pensées et de sentiments entre vous et le Saint-Esprit soit régulier. Il y a un échange qui doit se faire avec la personne du Saint-Esprit. Il y a un moment, Jésus, il était fatigué, il avait passé une journée éprouvante et il va aller traverser un lac pour un homme, pour délivrer un homme, le possédé de Gadara. Tout ça pour un homme, et il va repartir. Tout ça pour un homme, juste un homme. Il était fatigué, il avait passé toute la journée à enseigner, etc., à guérir les gens. Et là, de nuit, il se déplace toute la nuit pour aller délivrer un homme. Jésus te cherche. Tu ne peux pas réaliser comment il pense à toi. Tu ne peux pas imaginer ses pensées qu'il a pour toi. Tu ne réalises pas comment il te cherche. Tu ne réalises pas que pendant que tu pries, des fois, tu es en train de prier ici alors qu'il est là. La Bible dit qu'il a fait habiter le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit, cependant, je vous dis, il est avantageux, il y a un avantage pour vous que je m'en aille. Sinon, je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un signe. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne avec qui tu dois entretenir une relation. Et une relation ne se construit pas en un jour. Ça fait peut-être 4 ans que j'essaie d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. 4 ans. Il y a des fois, c'est extraordinaire. Et au bout d'un moment, je l'oublie. Et il peut passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et à un moment, je réalise, mais oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi je me suis éloigné de toi comme ça? Oui, je vais à l'église, je fais plein de choses. Je marche avec Dieu, j'obéis. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Il veut te connaître. Il veut ton corps, ton âme et ton esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne, pour que je vous l'envoie. Donc actuellement, chaque heure de ta vie, chaque minute de ta vie, le Saint-Esprit est à côté de toi et il te cherche désespérément. Et maintenant, face à une telle parole, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Si réellement tu te dis enfant de Dieu, si réellement tu te dis disciple de Jésus-Christ, Tu dois faire quelque chose. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si vraiment vous saisissez ce message, si vraiment vous saisissez ce que Dieu a voulu vous dire, ça va changer quelque chose pour vous. Cette semaine, il va y avoir des actions que vous allez poser. Il y a des choses que vous allez faire. Vous allez vous mettre à l'écart. Vous allez vous mettre de côté. Dans Exode 19:10, ce sera mon dernier passage. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple. » Ça demande une consécration et parfois ça demande 3 jours. Mais si seulement tu sais le chercher, pas pour ce qu'il va te donner, mais juste lui, pour qui il est. La Bible dit que le Saint-Esprit, il va chercher dans les profondeurs du cœur de Dieu. Il cherche les profondeurs de son cœur. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui va te dire qui est Dieu. Tu vas lui parler au début, il ne sera rien parce que c'est une relation. On ne construit pas une relation du jour au lendemain. Au début, peut-être un mot, peut-être une pensée. Mais si tu continues dans la foi, parce qu'on ne peut pas marcher dans la vue dans ce monde, c'est impossible. Et marcher avec Dieu, c'est impossible. Si tu continues à lui parler, pas lui raconter toutes tes histoires, mais lui parler. J'ai lu ça dans cette parole. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, il y a telle personne, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Si Dieu ne te parle plus pour les gens, c'est qu'il y a un souci. Si Dieu ne me parle plus, si Dieu ne me fait pas accomplir des miracles, c'est le problème vient de moi. Pas de quelqu'un d'autre, pas des circonstances, pas du diable, pas des démons, pas de Dieu, de moi. Cette même parole, elle trouve des terrains différents. Mais si seulement tu prends cette parole à cœur et tu dis, Seigneur, je vais passer du temps avec toi. Je vais passer du temps à te connaître. Je vais passer du temps... Je vais te demander la révélation de qui tu es. Je veux te connaître. La semaine prochaine, pour la plupart d'entre nous, nous allons avoir cette retraite de 3 jours. Et j'ai vu beaucoup de réunions où on crie, où on chante, où on danse, où les gens y simulent. Il y a des simulateurs dans ce monde. Les gens simulent des choses et des sentiments et des choses qu'ils ressentent. Et il ne se passe rien après. Il ne se passera jamais rien dans une réunion si les gens n'ont pas soif. Vraiment. Jamais rien de quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous allez donner. C'est ce que dit Jésus. Celui qui s'approchera de moi, je vais m'approcher de lui. Tu te retires de moi, je resterai là, silencieux. Mais si tu t'approches de moi, et comment on s'approche de Dieu? C'est en lui parlant. Tu es là, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Pas en pensant à mille et une choses, tu penses à lui. Tu dois faire du travail là-dedans. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu t'approches de lui. Seigneur, je veux être rempli, je veux te voir, je veux te connaître. Je veux savoir qui t'es, montre-moi qui tu es. Je veux plus que ce soit une parole qui tue, la lettre qui tue. Je veux cet esprit, ça vivifie, ça va remplir ma vie et les gens vont voir la différence. Tu es avec moi. Peu importe les circonstances que je peux ressentir, mes sentiments, on s'en fiche complètement. Complètement. Ce que tu ressens, on s'en fiche, sérieusement. Dieu veut que tu marches par la foi en lui. Donc pour ceux qui seront là, vous voulez voir la gloire de Dieu la semaine prochaine, payez le prix cette semaine. Payez le prix. Donnez-vous complètement. Passez un temps. Si vous pouvez le faire tous les jours. Je sais qu'au début, quand on entend parfois un message et qu'on a un cœur, pour changer, on se dit... Ok, moi je vais prier pendant 1 an maintenant, 5 heures par jour. Et commence quelque part. Commence quelque part, ça tu ne l'atteindras pas. Commence quelque part. On a 5 jours. Et même pour ceux qui ne sont pas là, votre objectif, ce n'est pas une réunion. De toute façon, ce n'est jamais une réunion. Votre objectif, c'est d'avoir un changement dans vos vies. Pour qu'il se passe des choses au travers de vie. Pendant ces 5 jours, passe du temps avec Dieu. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, c'est le lieu d'intimité. La chambre, c'est le lieu où tu ne vas pas être dérangé. Entre dans ta chambre. Tu n'as pas de chambre, va dans ta voiture. Tu n'as pas de voiture, va dans un sous-sol, quelque part. T'as pas tout seul quelque part, va dans une forêt, va quelque part. Ta femme, dis-lui, explique-lui ce que tu vas faire. T'as peut-être des choses à faire, tu les mets de côté. Tu consacres ce temps à l'Éternel. Et le troisième jour, je t'assure, Dieu va venir. Dieu va venir dans sa puissance, se manifester. Dieu te cherche, il aspire, il est désespéré pour toi. Est-ce que le pasteur Jean peut venir? S'il n'est pas là? Ok. Quelle belle image prophétique. De la même façon, quand on appelle Jésus, il arrive. Quand on le cherche réellement, il vient. Je sais qu'il est l'heure. Mais j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur lui. Faites comme si vous étiez dans votre chambre, là, il n'y a plus personne. C'est pour ça que je dis souvent, quand on prie, mais fermez les yeux. Pourquoi? Parce que quand on ferme les yeux, déjà, on ne voit plus rien. On est obligé de marcher par la foi. Donc, on va fermer nos yeux. Et ça va être 5 minutes, s'il vous plaît. Pendant 5 minutes. Si vous avez des choses dont vous devez vous repentir, faites-le. La Bible dit qu'on a un avocat, simplement, il vous pardonnera. Et prenez des décisions. Commencez à parler à Dieu. Commencez à lui dire, montre-moi qui tu es. Fais-moi te connaître. Je veux te voir. La chair, elle veut pas, elle s'en fout. La chair, elle ne veut pas connaître Dieu. Mais ton esprit, qui tu es réellement, veut connaître Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous prions qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur l'Église de la Victoire du Québec, contactez-nous et visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.